Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, ces notes mythiques qui valent signature, celles d'un géant du siècle dernier, ce sont celles de Bob Marley, évidemment, sur cette musique, le reggae, dont il est l'âme, l'incarnation, l'esprit et le génie, passeport pour le rêve. Et pourtant, cet homme-là, cette conscience, cet artiste, c'est aussi une vie frappée de soubresauts, jusqu'au plus dramatique, une tentative d'assassinat. Le 3 décembre 76, en effet, plusieurs hommes armés lui tirent dessus dans sa résidence du 56 Hope Road à Kingston, capitale de la Jamaïque. Il allait avoir 32 ans. Il s'apprêtait à participer à un concert organisé deux jours plus tard, intitulé Smile for Jamaica. Dans une ville ravagée par une guerre des gangs, cet événement organisé par Bob Marley lui-même était un appel à l'apaisement. Mais cette tentative d'assassinat a tout remis en cause. Enfin, parler de lui, c'est aussi parcourir l'histoire de la Jamaïque et de ses très récurrentes flambées de violence, politique ou civile. Notre invité aujourd'hui, Francis Dordor, journaliste spécialisé musique, auteur de trois biographies de Bob Marley, dont Bob Marley, destin d'une âme rebelle. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
21 avril 1966, aéroport de Kingston. Ce jour-là, l'armée et la police ont beaucoup de mal à contenir une foule très excitée. Mais aucune colère, au contraire, beaucoup d'enthousiasme. Car l'avion d'un messie s'apprête à atterrir. Une équipe du service d'information de Jamaïque immortalise la scène avec ses caméras.
Ils sont venus par centaines, sous la pluie, attendre l'arrivée d'une légende. Pour certains, il est le roi des rois, le lion de Juda, un dieu même. Les membres du mouvement Rastafari, qui le considèrent comme une divinité, sont venus en masse. Sa Majesté impériale alliée Selassie Ier est arrivée.
La foule se précipite autour de l'appareil. La police ne peut rien faire. Au bout de 20 minutes, l'empereur apparaît à la porte de l'avion. Mais il ne descend pas sur le tarmac. Non, le roi des rois, Haïlé Selassie, car il s'agit bien de lui, a peur pour sa sécurité. Les autorités jamaïcaines font alors venir Mortimer Plano, l'un des leaders du mouvement Rasta, histoire de calmer les fidèles. Car plus de 100 000 d'entre eux se sont massés sur les bords de la route pour accueillir le dernier négus d'Éthiopie. Le rastafarisme, c'est un courant spirituel et culturel initié par les Jamaïcains Leonard Howell, dit le premier Rasta, et Marcus Garvey, militant noir, précurseur du panafricanisme, également surnommé le Moïse Noir. Le critique musical Sébastien Clark explique les origines du mouvement Rasta dans l'émission Panorama.
Mais je crois qu'il faut voir un petit peu d'histoire avant tout. Le milieu Rastafari est apparu à la fin des années 20. Ce fut tout d'abord une réaction face au colonialisme, une réponse à la pauvreté, une réaction de défense face à la pauvreté vécue dans les ghettos de Kingston.
La foule à Kingston, ce 21 avril 1966, une jeune femme observe l'empereur éthiopien parader debout dans une voiture décapotable. Elle a 19 ans, elle n'est pas encore rasta. Non, c'est en voyant le roi des rois que sa foi va naître. Elle le raconte dans le documentaire intitulé tout simplement Marley, réalisé en 2012 par Kevin MacDonald.
Il nous a salués et à la sortie de l'avion, je me suis dit, mais il est tout petit, Dieu serait ce petit bonhomme. Il a tourné la tête et a regardé dans ma direction et il a fait un signe de la main. J'ai vu sa main et sur sa paume, j'ai vu une marque, crois-moi. Quand j'ai vu ça, j'ai perdu la tête et je suis retournée à Trenchtown.
Cette jeune femme qui retourne dans le quartier de Trenchtown, c'est Rita Marley. Elle s'est mariée à un certain Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley. Ça fait 2 mois que Bob et Rita sont mariés. mais ils sont déjà séparés par la distance, car Bob a rejoint sa mère dans le Delaware, aux États-Unis, 2 jours après son mariage. Il veut faire plaisir à sa famille, mais aussi tenter l'aventure américaine. Enfin, sa famille, c'est essentiellement sa mère. C'est Della, qui avait 18 ans quand Bob est né. Parce que le père, Norval, un blanc d'origine anglaise de 59 ans, Bob l'a très peu connu. Revenons au début des années 50, en Jamaïque donc. Avant d'arriver à l'adolescence dans le quartier pauvre de Trenchtown, Bob Marley grandit près de Nine Miles, dans la paroisse de Saint-Anne, sur les hauteurs verdoyantes de la Jamaïque. Dans ce bled isolé, sans électricité, il mène une enfance au grand air. Il aime grimper à dos d'âne et aller dans les champs, mais il a un problème, il est métisse. On l'appelle sale petit jaune ou encore petit bâtard blanc. Et ses oncles lui ordonnent de sortir les chevaux, nourrir les cochons, ce sera ça de moins à faire pour eux. Ce métissage devient une composante de son identité. Le chanteur l'explique des années plus tard à un journaliste.
Mon père est blanc et ma mère est noire. Tu vois, on m'appelle métisse ou autre. En fait, je ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Je ne penche ni du côté des noirs ni du côté des blancs. Je penche du côté de Dieu.
À l'âge de 12 ans, Bob débarque à Kingston, dans le quartier populaire de Trenchtown, avec ses bandits, ses escrocs, mais aussi ses chanteurs et ses sportifs. C'est le dépaysement total pour Bob, l'enfant de la campagne. Il arrête l'école à 14 ans, mais se lance à corps perdu dans sa passion, la musique. C'est à Trenchtown qu'il retrouve Bunny Wailer, un ami d'enfance, et qu'il fait la connaissance de Peter Tosh. Les trois jeunes musiciens forment alors le groupe Les Wailers, d'où Bob Marley et Les Wailers. En février 64, leur titre « Simon Down » devient numéro 1 des ventes en Jamaïque. 80 000 copies vendues, mais les membres des Wailers ne verront pas la couleur d'un seul billet, tout l'argent revient au producteur. Bob a alors 19 ans. Sa mère est partie aux États-Unis et il n'a nulle part où dormir. Alors il squatte chez des amis ou dans le studio de musique. C'est à cette époque qu'il fait deux rencontres qui vont changer sa vie. Rita, sa future femme, et Mortimer Plano, l'un des leaders du mouvement Rasta, celui qui s'est occupé de calmer la foule sur le tarmac lors de la visite de l'empereur Haïlé Sélassié, souvenez-vous. Eh bien c'est avec ce Rasta que Bob Marley va trouver un apaisement identitaire. Il l'explique des années plus tard à un journaliste.
En grandissant, j'ai progressivement pris conscience que j'étais seul au monde et que je ne trouverais personne. Je me suis retrouvé à Kingston, j'ai rencontré plein de gens et c'était des Rastas. J'ai trouvé en eux ce qu'il y avait aussi en moi, la même chose.
Cette foi dans le rastafarisme, Bob ne l'abandonnera jamais, tout comme sa femme Rita. Même si le chanteur n'a pas la même définition de la fidélité en religion qu'en amour. Grand séducteur en effet, il reconnaîtra 11 enfants de 7 relations différentes, et encore, ce n'est que du déclaratif. Lorsqu'il revient des États-Unis, après quelques mois passés chez sa mère et son beau-père à enchaîner les petits boulots, Bob retrouve Rita, les rastas et la musique. Autant dire qu'il est comme un poisson dans l'eau et à l'affût de tout. D'ailleurs, la carrière de Bob Marley des Wailers épouse les évolutions des genres musicaux en Jamaïque. Du ska au rocksteady et du rocksteady au reggae, Marley et son groupe surfent sur la vague. Et puis en 72, un producteur propulse le groupe jamaïcain vers la célébrité. Il s'appelle Chris Blackwell. Il est anglais, il a vécu en Jamaïque et c'est un dénicheur de talent pour sa maison de disques Island Records. Et voilà comment il a fait affaire avec Marley et les Wailers.
Quelqu'un m'a prévenu, il m'a dit « Bob Marley et les Wailers sont à Londres, tu veux les rencontrer ?» Ça me disait bien, car on parlait beaucoup d'eux. Ils sont entrés dans mon bureau et je les ai trouvés très charismatiques. Je leur ai demandé combien ils voulaient pour faire un album. Et je leur ai donné la somme.
Chris Blackwell leur donne alors 4000 livres après un simple accord verbal. Autant dire que Bob, Buddy et Peter se mettent au travail dès leur retour en Jamaïque. Il se trouve que l'année 72 est une année d'élection dans le pays. C'est le candidat socialiste du PNP, Michael Manley, qui les remporte. Dès le début de son mandat, il multiplie les réformes pour réduire les inégalités. Droit à la retraite, salaire minimum, droit de vote à 18 ans, éducation gratuite, égalité salariale homme-femme. Un vrai programme de gauche qui, par ailleurs, fait décoller le pays sur le terrain économique avec 6% de croissance. Les déshérités de Kingston ont trouvé leur messie. Le politique qui mène sa campagne électorale avec un bâton offert par l'empereur Haile Selassie en personne. L'année 73 s'annonce sous les meilleurs auspices pour le premier ministre Michael Manley, mais également pour Bob Marley, les Wailers, qui sortent leur premier album sous le label de Chris Blackwell. Il s'appelle Catch a Fire et c'est le début du succès pour le groupe à l'international. Côté gouvernement, un événement va bouleverser tous les plans en octobre 73. Comme l'explique Michael Manley dans le documentaire Jamaïque, FMI, mourir à crédit, réalisé par William Carell.
Un an après notre arrivée au pouvoir, le choc pétrolier a secoué le monde entier, et la Jamaïque en particulier. Nous étions totalement dépendants énergétiquement. Nous n'avions ni pétrole, ni charbon, ni énergie hydraulique. Nous avons été pris dans une crise économique épouvantable.
Si la Jamaïque s'écroule sous le poids du prix de l'énergie, Bob Marley et les Wailers s'envolent mois après mois dans les charts. Après Catch a Fire, place à Burning en octobre 73 et Natty Dread un an plus tard, mais sans Peter Tosh et Buddy Wailer qui poursuivent leur carrière de leur côté. Bob Marley, lui, travaille dans sa luxueuse propriété du 56 Hope Road, route de l'espoir. Comme elle paraît loin désormais la vie dans le ghetto de Trenchtown. Un journaliste lui demande « Comment sait-il que vous habitiez à deux numéros de King's House, la résidence du gouverneur ?» Et à trois numéros de Jamaica House, celle du Premier ministre. Réponse, regarde dans ma cour, c'est le ghetto. J'ai juste amené le ghetto dans les beaux quartiers. C'est tout. Mais les riches blancs du quartier qui n'ont pas l'habitude de voir des rastas avec leurs dreads traîner dans le coin hallucinent. Parce qu'avec Bob, Hope Road devient un point de rencontre culturel, politique et sportif. Oui, sportif. Car Bob est fan de foot. Entre deux répétitions, on trouve toujours un moment pour un petit match. C'est du 5 contre 5 dans la cour de la propriété, avec des petites cages et aucun contrôle antidopage, cela va sans dire. La ganja circule partout, dans l'ancienne demeure coloniale, même si son usage est interdit en Jamaïque. Pour les Rastas, ce n'est pas un usage récréatif, mais plutôt spirituel. Nuance. Et en matière de spiritualité, l'année 75 est dramatique pour les Rastas, car Dieu meurt le 27 août. Le lendemain, le Daily Gleaner, l'un des principaux quotidiens jamaïcains, titre en première page « Haile Selassie disparaît à 83 ans ». Et en bas de page, on peut lire « Les Rastas affirment qu'il n'est pas mort ». Dans la foulée, Bob Marley écrit une chanson à l'honneur de Rastafari, « Jah Live ». Pour les Rastas, Dieu est toujours vivant. En Jamaïque, la situation économique et sociale ne fait qu'empirer. Le pays est endetté, le chômage explose avec un taux qui dépasse les 30%. La majorité de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Et les gangs font basculer le pays dans le chaos. Le 17 juin 1976, le gouverneur de la Jamaïque décrète l'état d'urgence et un couvre-feu pour tenter d'endiguer la violence qui embrase Kingston. À Trenchtown, les autorités doivent même fermer une école maternelle, car le tableau noir est criblé de balles. En réalité, comme l'explique la journaliste Laurie Guns dans le documentaire Who Shot the Sheriff, les autorités ne font peut-être pas tout leur possible pour stopper la violence.
J'ai passé 10 ans en Jamaïque à essayer de comprendre l'histoire de cette guerre tribale. Kingston était un damier de zone de guerre, loyal à l'une des deux parties. Les politiciens avaient besoin des gangsters pour obtenir des votes, et les gangsters avaient besoin des politiciens pour être protégés de la police, pour l'argent et pour les armes.
Dans la capitale jamaïcaine, deux gangs s'opposent, chacun rattaché à un parti politique. Chaque parti a sa garnison, son quartier populaire, Trenchtown d'un côté, tenu par le PNP, et Tivoli de l'autre, à la solde du JLP. Et dans chaque quartier, il y a un don qui contrôle la garnison, autrement dit un chef mafieux. Et comme ils ont vu le parrain de Coppola, ils ont récupéré le titre de don, Don Corleone et compagnie. Ça ne s'arrête pas là. Non, les deux partis politiques, le PNP du Premier ministre Michael Manley et le JLP d'Edouard Sigui, dans le contexte de la guerre froide, ont choisi leur camp, bien sûr, et pas le même, évidemment. Le PNP est proche de Cuba et de l'URSS, le JLP des États-Unis. Certains Jamaïcains ont d'ailleurs rebaptisé Edouard Sigui CIA Guy. Et la Maison Blanche appelle Michael Manley la taupe communiste. Comme ça, c'est clair. Bob Marley, lui, veut se tenir le plus éloigné possible de la politique. Pour preuve, au 56 Hope Road, les membres des gangs rivaux sont pour la plupart des amis d'enfance de Bob. Alors chez lui, c'est terrain neutre. Pas question de sortir les armes. Un pétard, oui, bien sûr, mais pas les armes. Chaque jour, des personnes venues des quatre coins de la capitale et du pays viennent demander de l'argent à Bob. Soit pour finir la construction d'une maison, soit pour des associations de foot, ce qui est gagné d'avance, des écoles ou tout simplement pour manger. Le chanteur écoute et distribue les billets. Bref, il fait de son mieux pour aider son pays qui va, lui, de plus en plus mal. En revanche, pour Bob Marley, l'année 76 est une année de consécration avec son album Rastaman Vibration qui cartonne partout dans le monde. Lors d'une première partie d'un concert de Stevie Wonder au Stade National de Kingston, au printemps, Bob Marley retrouve ses deux anciens acolytes, Peter Tosh et Buddy Wailer. Après le concert, Stevie Wonder leur confie qu'il reverse toute la recette à des œuvres de charité. Et bien c'est à ce moment-là que naît dans la tête de Bob une idée, donner un concert gratuit pour le peuple jamaïcain, intitulé Smile for Jamaica.
Bob Marley, le porte-parole du reggae, participera à un concert gratuit donné au profit du peuple jamaïcain à Kingston le 5 décembre. C'est lors d'une conférence de presse que Bob Marley, son manager Don Taylor, et le secrétaire parlementaire en charge de l'information et de la culture Arnaud Beltram ont annoncé la nouvelle.
Le Premier ministre Michael Manley adore l'idée. Et puis c'est l'occasion de tenter un coup de poker, un trick, une ruse pour politrick, comme l'appelle Marley, l'équivalent de notre bonne vieille politique politicienne, tout ce que Bob déteste et ne cesse de dénoncer. Michael Manley organise des élections anticipées qui tombent juste après le concert, comme par hasard. Il est clair qu'il compte surfer sur la vague, Marley. Le chanteur est piégé, récupéré. Pas le genre de la maison Marley, pourtant, de se faire coincer comme ça, lui le rebelle, mais... L'organisation du concert est trop avancée pour l'annuler. Il n'empêche, apparaître comme un soutien de Michael Manley, c'est gênant pour Bob Marley. Mais au-delà, c'est risqué. Lui qui a toujours été neutre peut devenir une cible. Et de fait, les menaces ne tardent pas à venir et de tous les côtés. Dans Kingston, la rumeur court, des tueurs seront présents au concert. Au sein même du groupe des Wailers et des trois choristes des I3, la peur s'installe et se propage. Mais les répétitions se poursuivent parce que Bob Marley veut que tout soit parfait. C'est un cadeau à son peuple. Au 56 Hope Road, deux membres des services secrets surveillent l'entrée de la propriété du chanteur. C'est Michael Manley, le Premier ministre, qui habite, rappelons-le, à quelques centaines de mètres, qui les envoie pour assurer la sécurité de Bob Marley. Le 3 décembre, de manière assez inexplicable, les deux gardes sont absents. Mais Bob ne s'en soucie pas. Il est plongé dans les répétitions, il a autre chose à faire. Au bout d'une longue session, il accorde une pause à son équipe. Il n'a plus ganja et un dealer doit arriver d'un moment à l'autre pour le livrer. Bob se rend ensuite dans la cuisine avec son manager Don Taylor qui revient de Miami. Il rapporte à Marley un chèque de 143 000 dollars correspondant aux royalties du groupe. Bob l'écoute tout en épluchant un pamplemousse. Et tout à coup, les deux hommes sont interrompus par des explosions. Ils pensent d'abord à des pétards. Mais pas ceux qui se fument, hélas, non. Et les détonations s'intensifient. Bob s'écrie alors « C'est l'acier, Jah, Rastafari !» C'est à ce moment-là que des tireurs glissent leurs armes dans l'entrebâillement de la porte et mitraillent en direction de Don Taylor et Bob Marley. Dans la salle de répétition, c'est la panique. On se jette à terre et on rampe jusqu'à la salle de bain. Rita Marley, elle, est à l'extérieur. Elle témoigne.
J'étais dans ma voiture. J'allais en sortir. J'ai vu des types monter l'escalier. Ensuite, ils ont pointé leur arme vers la voiture. J'ai senti mon sang couler et j'ai compris que j'étais touchée. J'avais l'arme sur la tempe et j'ai entendu « Ils sont tous morts ?» Et quelqu'un a répondu « Ouais, tout le monde est mort !»
La légende dit que 56 balles ont été tirées au 56 Hope Road. Mais beaucoup plus gravement, quand le silence se fait entendre dans la propriété, une question est dans tous les esprits obsessionnels, Bob Marley a-t-il survécu à la fusillade ? Vendredi 3 décembre 1976, 56 Hope Road, Kingston, Jamaïque. Il est près de 21h. Et c'est le silence dans la propriété de Bob Marley. Les agresseurs viennent de quitter les lieux. Diane Robson, l'avocate du chanteur, se remet de ses émotions. Et elle raconte ce qui a suivi la fusillade.
J'ai dit, je vais voir ce qu'il se passe dehors. On l'a emmené rapidement. Elle avait du sang qui coulait depuis le côté de la tête. Et j'ai dit, comment va Bob ? J'ai couru vers la cuisine et j'ai crié, Bob ! Il y avait du sang sur le sol. Puis j'ai vu que Don Taylor était étendu dans une mare de sang. Et là, j'ai vu Bob. Il avait du sang partout. J'ai dit, tu t'es pris des balles ? Il a dit, non, c'est le sang de Don Taylor.
Très vite, la nouvelle fait le tour des médias. On a tiré sur Bob Marley à deux jours du concert Smile for Jamaica.
Here now is a special item of news.
Le musicien et star du reggae Bob Marley. Sa femme, Rita Marley, et son agent, Don Taylor, ont été admis à l'hôpital universitaire après avoir été victimes d'une tentative d'assassinat.
Les Marley s'en sortent. Une balle a raflé la poitrine de Bob et s'est logée dans le bras. Rita, elle, a eu beaucoup de chance. Touchée au crâne, mais superficiellement. Quant au manager, Don Taylor, il n'est sauvé que grâce à une opération d'urgence dans un hôpital de Miami. Pour Bob Marley et le reste de son équipe, une question se pose maintenant. Faut-il maintenir le concert ? Malgré un entourage défavorable, la star du reggae prend le risque. Il chantera bien le 5 décembre à Kingston. Ce jour-là, la tension est palpable. Des patrouilles de policiers quadrillent le National Heroes Park. La foule attend depuis plus de 5 heures l'arrivée de Bob Marley. La nuit tombe, la star va-t-elle vraiment venir ? Et puis tout à coup, comme une mèche, une rumeur enflamme les spectateurs. Il est arrivé, il est là. Les services de sécurité sont toujours sur les dents. Il y a beaucoup d'agitation. Et en convalescence, Bob ne doit chanter que deux chansons. Mais l'atmosphère l'incite à faire plus. Tout à coup, il ouvre sa chemise et montre sa plaie pour dire à la foule « Regardez, ils n'ont pas réussi à me tuer. » Les spectateurs applaudissent leur héros. Le concert passé, une question encore une, et sur toutes les lèvres. Mais pourquoi a-t-on tiré sur Bob Marley ? Encore aujourd'hui, personne n'a la réponse. Seules des hypothèses ont été avancées, celles d'un règlement de compte lié à des dettes de jeu d'un ami de Marley, ce qui demeure peu probable. Et puis une foule de spéculations, toutes liées à une affaire politique avec un meurtre qui serait commandité par le PNP, le JLP ou même la CIA, allez savoir. Mais qu'en pense Bob Marley lui-même ? Réponse.
Parlons de cette tentative d'assassinat. On m'a dit que ça venait soit du JLP, soit du PNP, pour avoir soutenu l'un ou l'autre. Qu'avez-vous à répondre, Bob Marley ? Pour moi, je pense que c'était l'œuvre du diable. Mais Dieu m'a protégé. Et il pourrait recommencer ? Si ça doit arriver, ça arrivera.
Ça ou rien, c'est pareil. Le journaliste revient bredouille et Bob Marley quitte la Jamaïque, lassé de ce climat de violence. Le premier ministre, Michael Monley, oui, est réélu en partie grâce au concert Smile for Jamaica. Et les affrontements entre gangs ne font que s'amplifier. Loin de son île natale, Marley et son équipe s'installent à Londres dans un immeuble du quartier de Chelsea. À chaque étage, il y a un musicien. Ils prennent leurs habitudes et se rendent régulièrement à Battersea Park Bridge pour le foot. Et à Chelsea, quartier chic de Londres, il est servi. Le club de Chelsea est prestigieux. Il a toujours été d'ailleurs le champion d'Europe en titre. Aujourd'hui, c'est lui. Loin des problèmes en tout cas, le chanteur se plonge cœur et âme dans la musique. Il ne quitte pas sa guitare, il travaille toute la nuit sur un nouvel album et ne dort que 4 heures par jour. Oui, le jour, jamais la nuit. Par ailleurs, monsieur fait couple avec Miss Jamaïque, Cindy Breakspear, 21 ans, qui vient d'être sacrée Miss Monde. Elle et lui, glamour à souhait, font la une des journaux sous le titre Miss World et son sauvage. Bob mène sa vie de jet rastaman dans la capitale britannique. L'album Exodus sort en juin 77, un monument. S'ensuit une tournée en Europe, À Paris, le chanteur s'est fait écraser le gros orteil lors d'un match de foot, oh, rien de dramatique. Mais il s'obstine à rejouer dans les jours qui suivent et la plaie s'infecte. Les médecins anglais diagnostiquent alors quelque chose de plus grave, un mélanome. Et voilà qu'on lui parle d'amputation de l'orteil. Au-delà de ses convictions rasta et de sa méfiance envers la médecine traditionnelle, Bob ne peut pas envisager cette solution. Cela rendrait difficile la danse, les mouvements sur scène et puis la pratique du foot. Finalement, Bob s'est fait opérer aux États-Unis et on ne lui retire qu'une partie de son orteil. Et il est de retour en tournée quelques mois plus tard. En Jamaïque, deux chefs de gang opposés, tous les deux emprisonnés, commencent à entamer un dialogue. Parce qu'ils comprennent, en fait, qu'ils sont manipulés par les deux leaders de la vie politique jamaïcaine, Edward Seagy et Michael Manley. Ils envisagent alors de faire la paix. Et ils cherchent un homme neutre pour tenter de faire le rapprochement entre deux camps profondément meurtris. Il n'y en a qu'un seul, Bob Marley. Alors, plusieurs représentants de gang partent à Londres à sa rencontre. Et un jour de 1978, l'annonce d'un nouveau concert est faite.
Une trêve a été décrétée entre les factions rivales de Kingston. Un rassemblement pour la paix sera précédé d'un concert qui aura lieu dans un parc. Plus de 100 000 personnes sont attendues. Bob Marley a été invité pour en être la tête d'affiche. Il a accepté et il retournera à Kingston. Bob, pourquoi revenir en Jamaïque ?
La vie des autres est plus importante que ma vie à moi. Je ne suis utile que si je peux aider les autres. Si je ne pense qu'à moi, ça ne sert à rien. Ma vie, c'est les autres. C'est normal.
Le 22 avril 1978, 12 ans, jour pour jour, après la venue d'Haïl et Selassie, Bob Marley est également attendu, et aussi attendu que la Rastafari à l'aéroport de Kingston. Oui, même foule excitée, même débordement de la police, le parallèle est saisissant. Bob Marley est désormais prophète en son pays. Le tarmac est envahi, les barrières renversées. Et la scène du One Love Peace Concert est encore plus frappante. 30 000 personnes sont rassemblées dans le stade, avec des opposants politiques assis côte à côte, des chefs de gang aussi. Tous sont venus écouter 16 des plus grands groupes de reggae jamaïcains. Peter Tosh, l'ancienne Wailers, stupéfait le public en allumant un gros joint lors de l'interprétation de son morceau « Legalize It ». Le geste est audacieux, devant le Premier ministre, dans un pays où la marijuana est interdite, mais oui, un peu comme si on interdisait le vin en Bourgogne. Après de longues heures de concert, vient enfin le tour de Bob Marley. Et là, évidemment, le public est en transe. À un moment, l'un des musiciens fait une fausse note, et Bob se met à chanter « What you do ?»« Fais attention à ce que tu fais ?» Le public pense qu'il s'adresse à lui. Alors Bob enchaîne avec un discours emporté par une énergie qui lui débouche sur une demande inattendue.
Est-ce qu'on pourrait avoir, ici, sur scène, la présence de Monsieur Michael Manley et de Monsieur Edward Seagy? Je veux juste leur serrer la main et montrer à tous que tout ira bien si on est tous ensemble. Et que pour s'en sortir, il faut rester unis.
Mais ça n'était pas prévu, puis c'est dangereux pour chacun des candidats de monter sur scène. Mais c'est Bob Marley qui le demande. Alors, après un moment de flottement, les deux hommes politiques, ennemis jurés depuis des années, montent sur scène et se serrent la main. L'image est frappante. Ces deux grands quinquagénaires blancs de peau et de chemise sont réunis des deux côtés du petit trentenaire Marley, superstar, qui se transforme alors en juge de paix et maître de cérémonie de réconciliation nationale. Excusez du peu. Ce soir-là, Bob Marley n'est plus un chanteur. C'est une divinité, un envoyé de Jah. Comme pour signaler sa présence, la foudre a frappé une minute avant. Dans le public, on n'en croit pas ses yeux. Bob Marley prend les mains des deux politiques et les unit avec la sienne au-dessus de sa tête pour former une arche. Et il prononce ces mots comme une incantation. Amour, prospérité, unité, Jah, Rastafari, c'est la sienne. Manet et Siggy sont crispés. Dans la tête de nombreuses personnes, on craint la fusillade ou l'attentat. Mais c'est à croire que Jah protège Marley et que rien n'arrivera ce soir-là. Une chose est certaine, après ce concert, Bob Marley entre dans la légende par la grande porte. Ressuscité, pacificateur, superstar. Mais pendant ce temps, la Jamaïque s'enfonce encore dans la spirale de la guerre civile. La musique n'aura pas fait de miracle, juste un mirage. En 1980, Edward Seagy remporte les élections et succède à Michael Manley. Bob Marley, lui, meurt le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, avec une place bien au chaud dans la légende du siècle.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
On a tiré sur Bob Marley, on en parle aujourd'hui dans Affaires Sensibles avec notre invité Francis Dordor. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste musical, ancien rédacteur en chef de Best, aujourd'hui vous êtes aux Un Rock, vous avez été, soyons simples, parmi les premiers en France à vous intéresser au reggae, à la Jamaïque dans les années 70, et vous êtes aujourd'hui l'un des spécialistes incontestés de cette musique. Vous avez été amené à côtoyer Bob Marley, vous avez bien de la chance, et à plusieurs reprises, et vous en parlerez un peu. Mais vous êtes l'auteur de 3 biographies sur le roi du reggae. La musique des Stones, par exemple, le rock des Stones, on sait qu'il prend racine dans le blues. D'où vient le reggae, lui? C'est un syncrétisme. Mais le reggae, d'où vient-il? Quelles sont ses racines? Alors, il vient de Jamaïque, mais quelles sont ses racines historiques?
Vous faites bien de faire le lien avec le blues, mais on peut le faire également avec le son cubain ou le calypso trinidadien. C'est une musique créole. C'est la rencontre de différentes influences avec un ADN, je dirais, une essence qui est africaine. Le reggae, c'est la rencontre entre une certaine instrumentation qui vient plutôt du monde occidental, d'ailleurs, guitare, batterie, basse, orgue, tout ça, voilà, avec aussi une rythmique très particulière qui là relève plutôt de, j'allais dire, du tréfonds du passé africain de cette île. Il faut savoir que la Jamaïque est peuplée à plus de 80% de descendants d'esclaves africains. Et donc il y a des, comme comme le disait le philosophe Édouard Glissant, il y a des vestiges, il y a des traces de cette appartenance africaine, et notamment la rythmique particulière du reggae, qui est basée sur une trinité de tambours qu'on appelle les Buru Drums. Alors les Buru, c'est une espèce de secte qui était réfugiée dans les montagnes, et qui, à une époque où le tambour était interdit par les blancs, c'est-à-dire les Anglais, les propriétaires de terriens, parce que effectivement ça diffusait des messages. Eux pratiquaient ces chants accompagnés de tambours, les trois tambours, en particulier le Buru Drum, c'est le Fundé, le bass drum,
ouais.
C'est
ces percussions qu'on entend dans la majorité des intros des chansons de Bob
Marley. Il y a même des chansons qui sont clairement, enfin en particulier tout ça est évidemment à alimenter, si vous voulez, le répertoire des Rasta. On entend notamment dans quelques chansons de Bob Marley ou des Wailers, notamment Rastaman Chant évidemment, là on entend véritablement cette base rythmique qui est le Buru Drums.
Un père blanc pour Bob Marley, une mère noire, un métissage. Comment l'a-t-il vécu? Je crois que c'est fondamental pour comprendre le personnage, le métissage, Bob Marley.
Je crois que c'est une donnée capitale, évidemment, pour comprendre la personnalité et sa quête d'identité à travers le mouvement Rasta. Comment l'a-t-il vécu? Je pense qu'il l'a vécu de manière douloureuse. Puisque, comme vous l'avez rappelé, voilà, il y a eu une période où, dans le ghetto en particulier, plus dans le ghetto d'ailleurs qu'à Nine Miles, il était considéré comme un métis. Or, un métis, dans cette partie de West Kingston, qui est la plus déshéritée, était plutôt une anomalie, parce que les métis accédaient à des lieux et à des postes, voilà, une statut social qui était nettement supérieur à celui de l'habitant des ghettos de West Kingston.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est identitaire, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est plus qu'un loisir, c'est un amour, c'est une passion, c'est le foot.
Ouais,
ça a tenu beaucoup de place dans sa vie. Je crois que vous avez joué au foot avec lui, c'est vrai?
Oui.
Il était bon?
Excellent.
Il jouait plutôt arrière, milieu de terrain avant?
Non, c'était un avant, plutôt à l'aile d'ailleurs. Non, il était excellent. Il avait d'ailleurs considéré que si sa carrière de musicien n'avait pas été celle qui a été, le succès qu'il a remporté, il aurait sans doute continué à jouer au foot et se serait peut-être consacré à ça.
Est-ce qu'on peut dire que Bob Marley avait une vision politique? Lui, il parlait de politrick. Alors trick, ça veut dire truqueur. D'ailleurs, Nixon, on l'appelait, comme certains Américains appelaient Nixon, Dickie the Trick, le truqueur. Donc il voulait dénoncer les magouilles politiciennes. On a parlé de ces deux grands partis qui se partagent le pouvoir, qui se partagent la Jamaïque, carrément. Il avait un fond politique, des idées politiques sur lesquelles il a beaucoup réfléchi.
Je pense que c'est pas tellement, c'est pas quelqu'un qui était proche d'une idéologie ou d'un courant de pensée politique, non. Par contre, effectivement, il s'était engagé auprès de Michael Manley lors de sa première élection, et notamment en participant à ce qu'on appelait le music bandwagon, qui était une espèce de caravane qui accompagnait le candidat Manley à travers les campagnes et qui jouait des morceaux. Enfin, il y avait un petit concert qui précédait la montée sur scène et la montée à l'estrade de Manley avant son discours. Et Marley avait participé à ça. Et la chanson, l'une des chansons, la chanson de la campagne électorale, Better Must Come, donc le meilleur doit venir, par un chanteur qui s'appelait Jackie Wilson, était un reggae. Donc voilà, le mouvement reggae en soi, je dirais, était plus du côté de Manley, donc du PNP, qui était un parti plus orienté à gauche, avec des axes plus sociaux, une politique plus sociale que le GLP.
Et pourquoi est-il le plus connu de tous les chanteurs de reggae? Alors vous allez me dire, parce que c'est celui qui avait le plus de talent. Peut-être que ça tient juste à ça, mais est-ce que ça tient à autre chose? Pourquoi il est le roi du reggae?
Roi du reggae, je ne sais pas. Toujours est-il, effectivement, c'est celui qui a le plus de succès, mais je pense que ça tient à sa personnalité, à son charisme et à son engagement. Évidemment, c'était un mystique qui, à travers ses chansons, arrivait à faire passer quelque chose qui pouvait être de l'ordre du message universel, une sorte de une quête de fraternité. Une quête de justice, évidemment. Ces chansons, Get Up, Stand Up, ou I Shot the Sheriff, ou voilà, sont devenues un peu des hymnes universels pour beaucoup de gens qui se sentent opprimés. Donc, il était, effectivement, de ce point de vue-là, aussi un porte-parole et il a été entendu sur les cinq continents. Il a été une star aussi bien en Asie qu'en Océanie, qu'en Afrique, qu'en Amérique du Sud. Il est resté véritablement, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, il fait encore figure comme étant sans doute le chanteur le plus universel, à mon avis, bien avant Elvis Presley ou les Beatles.
Tiens donc, bon, mais pourquoi pas?
Écoutez, hein, oui, si vous allez en Afrique, vous parlez d'Elvis Presley, ça leur dit pas grand-chose. Par contre, Bob Marley, c'est évident.
Bien sûr. Stand up for your rights. Hein, lève-toi pour tes droits. On va sortir musicalement, en tout cas, de Bob Marley. Juste 3 minutes, on se retrouve après. Le temps d'écouter Indie, Noir Brésil.
Mon ancêtre n'a pas de nom, son exil est éternel. Les larmes que nous pleurons ne nous appartiennent pas, d'azur et de souffreur sont les sacrifices qu'emportera le silence.
On arrivait bien sûr à parler de la tentative d'assassinat et de l'hypothèse. Alors on n'a jamais su, selon vous, quelle est l'hypothèse la plus crédible sur qui a voulu tuer, parce qu'on ne tire pas sur quelqu'un avec une arme à feu sans vouloir le tuer, qui a voulu tuer Bob Marley?
C'est indéchiffrable, véritablement c'est indéchiffrable. C'est compliqué, c'est une histoire qui... c'est peut-être préférable de commencer par parler de la situation spécifique de la Jamaïque, qui est une île donc des Caraïbes qui se situe entre l'Amérique du Sud et les États-Unis à un moment où et pas très loin de Cuba, à un moment où effectivement la guerre froide était encore d'actualité. Et l'hypothèse effectivement la plus souvent mentionnée, c'est que les États-Unis ne tenaient pas à avoir un deuxième Cuba à quelques kilomètres de leur côte, et que par conséquent, ils voulaient absolument à tout prix dégager Michael Manley, qui lui avait tendance effectivement à aller chercher des aides ou
et de l'aspiration du côté de Cuba.
Oui, du côté des marxistes. Et donc il y aurait eu ça. Alors moi j'ai fait quelques recherches et notamment là récemment quand il y a eu une déclassification des archives de la CIA, puisque effectivement la CIA aurait été impliquée dans cette histoire. Et quand vous tapez dans le site de la CIA Jamaïque Bob Marley, l'accès vous est interdit, c'est-à-dire c'est marqué deny, donc refusé. Par contre, il y a beaucoup de littérature sur le site de la CIA concernant la Jamaïque, et c'est là où on comprend effectivement que la Jamaïque était un point stratégique très important. Après, il y a l'histoire de la Jamaïque elle-même, c'est-à-dire, j'allais dire, ses affaires intérieures, et notamment les histoires de gangs. Et là, on touche à quelque chose qui est assez difficile à rationaliser, parce bien que sûr. Là, il y a des trafics, trafic de cocaïne, trafic d'armes, etc. Il faut dire qu'au sein même de l'équipe de Bob Marley, de ses plus proches collaborateurs, il y avait à la fois des membres du PNP et des membres du GLP.
Oui, absolument.
Donc voilà, son plus proche collaborateur, enfin son attaché de presse était membre du GLP et beaucoup de ses collaborateurs, de ses proches, voire de ses amis, étaient du PNP. Donc c'est difficile de pouvoir arriver à discerner, j'allais dire, une raison réellement rationnelle de cet acte. Voilà.
Vous avez interviewé Yoko Ono, l'épouse de John Lennon, je crois,
oui.
Qui, elle, dit que son mari John a été la cible de la CIA. Vous
voyez, non, en fait, CIA elle n'a pas voulu répondre. Quand elle je lui ai posé la question, ah bon, non, elle a laissé un blanc, et ce qui avait valeur de réponse en même temps, parce que, oui, il est probable que les États-Unis...
Il était persona non grata aux États-Unis, de toute façon. Nixon a tout fait pour qu'il ne vive pas à New York, et il a fini par vivre à New York.
Chris Blackwell, le producteur de Marley, a clairement dit que quelques temps avant la tentative d'assassinat, l'ambassadeur des États-Unis en Jamaïque l'a appelé en lui disant que le gouvernement américain était assez préoccupé des chansons de Bob Marley, du message qu'il faisait passer. Donc voilà, après, sont-ils allés jusqu'à commanditer, à envoyer un commando, tout est possible. Ça paraît un peu gros, mais ils avaient peut-être d'autres chats à fouetter. Voilà, l'histoire, toujours est-il que l'histoire reste totalement, en grande partie obscure.
Saura-t-on un jour ? Pas sûr. Les trois personnages qui auraient été sur Marley auraient été exécutés, pendus ou enterrés vivants. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire ?
Oui, alors ça c'est son manager Don Taylor qui raconte ça dans son bouquin Guns and Ganja, où effectivement, à défaut d'avoir une justice officielle, on aurait appliqué la justice du ghetto, c'est-à-dire qu'on aurait effectivement arrêté trois des protagonistes du commando, on les aurait emmenés dans un coin qui s'appelle MacGregor Gully. Donc le Gully, il faut dire, c'est une espèce de canal de déjection qui traverse les taudis, les bidonvilles du downtown Kingston, et là il y aurait eu effectivement une forme de jugement, de tribunal, et ils auraient été condamnés, on les aurait exécutés. Alors Don Taylor raconte qu'on aurait même tendu un flingue à Bob Marley pour qu'il se fasse lui-même justice, et il aurait refusé. Mais bon, tout ça, venant en plus d'un personnage qui était relativement peu crédible, dans la mesure où il a arnaqué son patron, ça laisse un peu des doutes quant à la véracité de ces dires.
Bien, merci infiniment, Francis Dordogne. J'ai voulu terminer quand même sur la tentative d'assassinat parce que c'était le cœur de notre récit. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. On a tiré sur Bob Marley, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous vous intéressez à Bob Marley, sachez que sur le site d'Affaires Sensibles, vous avez le lien qui peut vous emmener jusqu'au long reportage de notre réalisateur Stéphane Combe, qui a réalisé cette émission-là que vous entendez aujourd'hui. Reportage tourné en Jamaïque et consacré à la société Rasta.